Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Croza.
Bonjour, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire, communiquer et collaborer sur le web donné à l'UTC par Stéphane Croza et dont les détails et les supports de cours se trouvent sur librecours.net. Je suis Audrey Guélou et je suis maintenant avec Léo, Kat, Danaïl et Tom. Bonjour à vous quatre.
Guélou et bonjour à vous qui nous écoutez. Dans un instant, nous allons aborder ensemble le thème des affordances sur les réseaux sociaux numériques. Pour en parler, notre groupe de travail de ce semestre est composé des étudiants suivants.
Bonjour à tous, je m'appelle Quốc Cát Trắng et je suis la dernière année de cycle ingénieur informatique.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Danaïl Lanou et je suis actuellement en tronc commun et je souhaite aller en génie informatique le semestre prochain.
Bonsoir à toutes et à toutes. Quant à moi, je suis Tom Poulenard, actuellement en première année de cycle ingénieur en génie informatique.
Et de moi-même, Léo Mullier, étudiant en troisième année à l'UTC en génie informatique. Enfin, je précise que notre chronique tentera de répondre à la problématique suivante. Quels sont les différents outils sur lesquels repose l'affordance des médias sociaux numériques et comment expliquer un potentiel détournement de sa fonction par les utilisateurs? Et pour commencer, pourquoi ne pas définir les termes majeurs qui apparaissent dans cette question? Tout d'abord, les médias sociaux numériques sont des sites de services en ligne permettant l'accès à l'expression publique, ouverte à tous, et à propos de sujets ou personnalités publiques ou de soi-même, d'après le cours SI22 « Signes et contenus numériques ». Le mot « affordance », quant à lui, dérivant de l'anglais « to afford », signifiant « offrir ou permettre de réaliser quelque chose », possède deux sens. D'un point de vue psychologique, il évoque un ensemble de possibilités permises par l'utilisation de cet objet selon des critères donnés. Par exemple, une balle de tennis est pour un humain en lien avec la pratique du sport de raquette, tandis que pour un animal, cet objet peut être perçu comme un objet à récupérer. En ergonomie, il s'agit de la capacité d'un objet à suggérer sa propre utilisation. À la manière d'un bouton envoyé sur un site, le fait qu'il y ait un effet ombré sur ce dernier indique à l'utilisateur qu'il s'agit d'un bouton sur lequel il peut cliquer et qui effectuera bien l'action d'envoi. On a là une interaction et une interprétation naturelle, par réflexe et ou par habitude, sans avoir besoin de documentation ou d'explications supplémentaires. D'après la chercheuse Catherine Ruchon, le but de l'affordance est d'élaborer des produits intuitifs et faciles à utiliser grâce à leur design. Si nous procédons à l'analogie monde matériel, plateforme virtuelle de l'affordance d'un objet donné, ses caractéristiques physiques et son esthétique deviennent l'ensemble des règles de sa charte graphique. En effet, d'après le psychologue Gibson, il s'agit de propriétés durablement perçues comme la forme, la taille, la couleur, la texture, la composition, le mouvement, l'animation, la position relative par rapport aux autres objets. On distingue alors deux types d'affordances présentes sur les médias sociaux numériques. D'une part, on parle des affordances dites primaires. Elles suggèrent à l'utilisateur une réponse, comme une action, une interaction avec l'interface, spontanée, immédiate, unique, rapide et sans engagement selon Catherine Ruchon. Ici, les concepteurs mettent en place, par exemple, des éléments de navigation très intuitifs, boutons, icônes ou barres de défilement. Le bouton Play, par exemple, présent sur le lecteur vidéo de YouTube, reprend les codes acquis par les chaînes IFI pour lancer la lecture d'un média. Le mode impératif, signez, abonnez-vous, envoyez, l'infinitif de l'injonction, partager, retweeter, et les injonctions d'engagement immédiat, en un clic, permettent également de renforcer une affordance primaire. D'autre part, les affordances secondaires suggèrent une action nécessitant plusieurs gestes et une certaine réflexion. Prenons par exemple les tickers, qui sont des images personnalisées, dynamiques, permettant d'afficher des calendriers ou des comptes à rebours. Ce sont des éléments graphodiscursifs, propres au blog, visuellement et textuellement affordants, comme l'écrit Catherine Ruchon. Dans cet exemple, il n'existe aucune suggestion directe faite à l'utilisateur du site pour ajouter à son tour son propre ticker. Cette action est simplement incitée par imitation ou mimétisme en cherchant soi-même comment créer le sien. Grâce à quel potentiel mode d'emploi en ligne ou une question sur un forum et grâce à quel moyen, quel est l'emplacement de génération d'un nouveau ticker? la démarche utilisateur n'est ici plus simplement de l'ordre du réflexe ou de l'action spontanée, mais témoigne d'une interaction plus longue, engageante et réfléchie. On écoute un premier extrait audio de la transcription d'une interview écrite que j'ai pu réaliser avec Catherine Ruchon à ce sujet.
Tout d'abord, que pensez-vous de l'autre distinguo, affordance trompeuse, affordance dissimulée et affordance perceptible proposée par Norman et Gaver?
Les catégories affordance trompeuse, affordance dissimulée et affordance perceptible et affordance primaire, affordance secondaire ne prennent pas le même point de vue et je ne pense pas que les articuler apporteraient beaucoup à l'analyse. Les catégories primaires-secondaires permettent de rendre compte du rapport injonction-créativité, des détournements d'affordance rendus possibles par l'intégration de routines perceptuelles, cognitives et motrices par les usagers et usagères. Ce processus englobe ce qui est directement perceptible et ce qui serait éventuellement dissimulé. En outre, le terme « dissimulé » laisse entendre qu'il y a un agent à l'origine de cette dissimulation. Or, j'ai voulu justement souligner la part qui peut échapper aux concepteurs-conceptrices en tentant de sortir du binarisme concepteur-conceptrice, usager-usagère. Cette double catégorie permet de prendre le point de vue de l'usager-usagère et de montrer comment il ou elle maîtrise un contexte d'action.
À présent, considérons ce qu'est le détournement d'une affordance. Il s'agit du dépassement de son niveau injonctif, c'est-à-dire formuler un ordre d'action, en dépassant les significations directement perçues à propos d'un objet pour lui attribuer une nouvelle fonction. Comme le rappelle la chercheuse, l'objet est ainsi détourné de son usage primitif et de la mission pensée par les concepteurs. On parle donc de détournement d'affordance ou de potentialité affordante imprévisible. Par exemple, si les tickers cadrent fortement les domaines d'application, naissance, mariage, vacances, ils ne prennent pas en charge les événements malheureux comme un décès. Ainsi, les utilisateurs, forts de leur expérience existante avec ces afficheurs numériques et l'affordance de la plateforme, ont réussi à contourner les intentionnalités du concepteur. Par conséquent, tout en gardant le modèle nom, prédicat, information temporelle, ils ont remplacé par exemple « est né » par « est parti ». Concernant l'arrière-plan du ticker, les utilisateurs ont ensuite sélectionné celui le plus sombre et neutre possible pour répondre à leurs besoins. L'occurrence de ces nouveaux tickers de deuil se généralisant peu à peu et instaurant par mimétisme une nouvelle norme, ou routine non primaire, l'expérience s'est associée à l'appropriation et à l'innovation de l'outil, selon Catherine Ruchon. L'internaute est ainsi tout autant usager que concepteur, comme conclut cette même chercheuse.
Un site web simplement constitué de textes et d'hypertextes, soit pour alléger les ressources, soit pour économiser de l'énergie, peut-il être doté d'affordance?
Selon la thèse phénoménologique, l'affordance dépend de l'intention et du système de pertinence d'un acteur. Perception liée à ses sens, mais aussi normes sociétales et autres. Voir les travaux de Kéré à ce propos. Si le site ne propose aucune interactivité avec les usagers et usagères, il est difficilement possible d'étudier leur réaction aux affordances potentielles. Dans le cas évoqué, il y a affordance minimale. Dans une perspective plus strictement gibsonienne, l'affordance est intrinsèque à l'objet. Les affordances dérivent alors des propriétés de l'objet, de la forme, la taille, la couleur, la texture, la composition. Par exemple, sur le plan discursif, ces éléments peuvent guider et orienter la lecture. La mise en gras d'éléments textuels ou la taille des caractères constitue un appel à la lecture. Cela est valable a priori pour la plupart des sujets percevants.
Voilà, je remercie grandement Catherine Ruchon d'avoir répondu à mes questions et à mon amie Maude pour l'enregistrement de la transcription audio de l'interview. À travers cette première intervention, nous avons donc pu définir affordances et réseaux sociaux numériques, distinguer les affordances primaires et secondaires, et enfin étudier un premier cas de détournement d'affordances. Je conclurai sur cette citation de l'auteur « La relation binaire concepteur-utilisateur reflète une conception trop étroite des véritables usages du web où l'affordance fonctionnerait à sens unique du concepteur vers l'utilisateur. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci à toi Léo. Merci oui Kat, on va passer à ta seconde partie dans un petit instant. Alors Léo, merci pour cette présentation très claire des catégories d'affordance et puis de votre problématique en général. Alors tu vois, j'ai une première question de Lucie qui se demande si l'affordance est vraiment instinctive pour certaines personnes plus âgées par exemple qui ne sont pas habituées aux nouvelles technologies. C'est vrai qu'on a peut-être toutes et tous eu cette expérience où on montre pour la première fois des pages web à nos grands-parents et puis parfois on peut découvrir donc que ce qui peut nous paraître intuitif ne l'est pas forcément. Alors comment est-ce que ça peut se passer donc pour certaines personnes qui ne sont pas habituées aux nouvelles technologies ?
Alors, c'est vrai que l'affordance va beaucoup dépendre du patrimoine de connaissances en informatique et de connaissances avec les environnements numériques de la personne en question. Pour les personnes qui ne sont peut-être moins familiarisées avec ces environnements numériques, je pense que c'est là où on va voir si l'affordance, elle est vraiment bien réalisée et si elle est opérationnelle ou pas. C'est-à-dire que si on voit un symbole de poubelle, ça veut bien dire qu'on va pouvoir supprimer un élément grâce à ce bouton. Si on avait un autre symbole qui serait peut-être moins éloquent, ce serait peut-être plus difficile de comprendre comment fonctionne un média socio-numérique. Donc je pense que l'affordance dépend de la réception sur les utilisateurs, mais c'est aussi grâce à cela qu'on voit si l'affordance est pleinement opérationnelle ou non.
Merci Léo, merci pour cette réponse très claire. On pourra aussi, bien sûr, il y a plusieurs exemples. Solène, ça te demander aussi d'un autre exemple plus actuel que les tickers pour la notion d'affordance. Alors là, tu donnais l'exemple de l'icône la poubelle, mais tu en as d'autres aussi, je te vois, vas-y.
Oui, alors par rapport à des exemples peut-être plus récents d'affordance, on peut prendre en compte les nouveaux réseaux sociaux, comme par exemple Snapchat, qui, au lieu de baser son expérience utilisateur sur des boutons, la base davantage sur des gestes, sur une gestuelle, et c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait que sur un iPhone par exemple, les boutons retour ou menu principal ont été complètement éliminés puisque la majorité des interactions avec les utilisateurs vont se faire grâce à des gestes du doigt vers le haut, vers la gauche, et donc c'est une nouvelle forme d'affordance, et je pense que des travaux pourraient venir pour compléter un petit peu cette nouvelle définition et s'adapter à une gestuelle qui remplacerait des boutons. Et donc, on pourrait peut-être créer une nouvelle catégorie, une troisième catégorie d'affordance qui prendra en compte des gestes et non des simples boutons.
Merci Léo pour cette réponse très complète. Eh bien, écoute, on va pouvoir passer la main à Kat, si tu veux, si tu es prêt. Eh bien, écoute, on peut démarrer ta seconde partie. Vas-y, je t'en prie, Kat.
D'accord. Merci Léo de nous avoir présenté et expliqué définition de l'affordance et réseau de social numérique, et ainsi la distinction des affordances primaires et secondaires. À travers la définition donnée ci-dessus, nous vous recommandons de conduire de la développement de l'application en deux parties. Une part, nous allons rechercher différents outils pour comprendre l'affordance des médias sociaux. Social numérique. Comme nous le savons tous, nous communiquons avec l'application via la son interface, c'est-à-dire le design des interfaces. L'application joue un rôle important dans le développement de la fondation. D'autre part, nous utilisons les fonctions premières du numérique. C'est aussi la fondation. Nous donnerons et l'analysation semble détiquer et le content de TeamSpeak et Discord pour le clarifier ce que la fondation. Quand les deux applications utilisent la technique VoIP, Voice over Internet Protocol, pour une communication avec des amis et des étangs sur Internet, bien qu'ils soient différents, ils établissent une applicité de la fondation qu'un cœur peut le simuler. D'abord, TeamSpeak se contient sur la salle audio et le regroupe de l'interlocuteur en fond de diffuser la vidéo auquel il insère via des canaux spécifiques. Il insère donc à la formule une grande qualité sonore. Ensuite, Discord se le contient aussi le pin sur le chat audio, vidéo ou le texte-tien. Groupe le son le formé sur le contient le thème où il y a la conversation individuelle. Il cherche donc à former une interface le virtuelle agréable, intuitive et le performant. Par conséquent, la fondation le de TeamSpeak est le caractérisé par un écran le gourmand, vite à fond le uniplan avec des éléments ou le design le cible et sans l'identité le propre. La fond dans le décor, la mettre en place une interface bien plus la travailler grâce à la différence le panto, sélection du canal, sélection de l'utilisateur, sélection des commandes.
Alors, est-ce qu'on a des perturbations en studio, messieurs? Dis donc, vous perturbez votre camarade. Tu étais bien parti, c'était très bien, Kat, mais tu avais un petit commentaire à faire, Danaï, tu voulais aider
oui, c'est...
une partie, je t'en prie, oui.
Non, c'est parce qu'il manipulait son papier et on l'entendait un peu.
D'accord, ok, entendu. Mais c'est bien, Kat, si tu veux terminer, il n'y a pas de problème, tu peux reprendre d'accord. Où tu en étais, oui.
Par conséquent, la fondant de la TCP est caractérisée par l'écran, le gouvernement. Vite à fond le uniplan avec l'élément au design, la cible et sans l'identité propre. La fondant de l'icône met en plan une interface bien plus travaillée grâce à différents panneaux, sélection du canal, sélection de l'utilisateur, sélection des commandes de chat, l'audio, panneau de discussion écrit avec des éléments s'inscrivant. Dans l'email, l'identité, le sombre violet et l'orange, avec des icônes évocatifs. Ensuite, les différences que nous avons observées au niveau de la fondation de ces deux sites par le fait que l'usage n'est pas le même. En fait, des sites à vocation arrêtés à l'arrière-plan. Dernière, la fenêtre exécution une seule vidéo, tandis que Discord a vocation à être regardé, à avoir de l'interaction fréquente avec l'utilisateur. À travers cette différence, nous avons donc pu discuter la fondation des différentes applications dans social numérique. On va écouter une extrait qui présente une la fondation. Donc, un jour, l'extra vous permettra de mieux comprendre la fondation d'une application.
En game design, et j'avoue que ça peut paraître évident, l'affordance est un point essentiel. Il est hyper important qu'on comprenne facilement la fonction d'un objet en le voyant. Pour ça, on peut bien sûr se fier à son apparence. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'irez pas sauter dans une scie mortelle couverte de sang. N'est-ce pas? Il y a aussi les signes associés à l'objet, ainsi que les feedbacks qui, pour le coup, demandent de tester au moins une fois l'interaction avec le dit objet. Et enfin, la représentation qui est faite de cet objet dans d'autres jeux. Un objet affordant, il utilise tous les moyens à sa disposition pour suggérer son fonctionnement et les possibilités qu'il offre. Quand les éléments utilisés par le système sont les trucs typiques du jeu vidéo, il faut alors respecter leur code pour ne pas brusquer les habitudes des joueurs. Sauf que les codes, ça peut se briser pour créer une réaction. N'oubliez pas que les jeux se transforment en expérience de jeu et ne pas tout dire aux joueurs peut donner des résultats... intrigants. Et pourquoi ne pas aller jusqu'à inverser tous les codes du jeu vidéo? Les pics sont les power-ups, les bonus sont mortels.
Alors merci Kat pour ta présentation et la comparaison que tu as faite des exemples d'affordance entre TeamSpeak d'un côté et Discord de l'autre. Alors à propos de ces deux médias sociaux-là, de ces deux logiciels-là, peut-être bon là c'est une question qui s'adresse à tous les quatre, est-ce que par exemple est-ce qu'il existe ce que l'on appelle des dark patterns ou des nudges sur ces logiciels-là ou sur d'autres médias sociaux qui ressemblent alors c'est vrai que je me permets d'employer ce terme-là, mais je ne sais pas si ça fait même partie de l'affordance en général. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou est-ce que je m'aventure toute seule là?
Oui, je pense que tu t'aventures toute seule.
Je pense
pour
que je m'aventure toute seule, très bien. Alors je voulais poser une question par rapport au nudge. Donc c'est ce qui va pouvoir, des techniques qui vont inciter les individus à changer leur comportement. Les dark patterns, c'est ce qui va pouvoir influencer un comportement chez un utilisateur qui peut aller à l'encontre de son intérêt ou alors sans même que cet utilisateur se rende compte qu'il fait une telle action qu'il n'aurait pas souhaité faire sinon. Et oui, Léo, je t'en prie.
Et voilà, je me permets de rebondir sur cette info parce que c'est vrai que on peut utiliser l'affordance en effet pour essayer de manipuler l'utilisateur et essayer de modifier son comportement. Et à ce sujet, il y a Tom qui va vous détailler un exemple très précisément. Donc, je lui laisse l'exemple pour tout à l'heure.
Ça marche, merci Léo. Et puis, alors tout de suite, donc Tom, en effet, tu auras ta partie, mais à la toute fin, donc Danaïl, je crois que c'est à toi. Si tu veux te lancer, si tu es prêt, c'est à toi la main.
Donc, je vais vous présenter un cas assez particulier, un exemple d'application des affordances, qui sont les règles de bonne conduite suggérées par ces affordances. Quel que soit le site ou le contenu, les utilisateurs sont amenés à suivre, d'un point de vue comportemental, des règles communes imposées en partie par des conditions d'utilisation. Celles-ci peuvent être suggérées par l'affordance en encourageant un comportement type à adopter, d'après les dires de Marion Luyat et Tony Regiacort, qui sont des professeurs. Pour traiter le sujet des comportements types à travers les affordances perceptibles, qui est une des catégories classifiées par Williams Gaver en 1991 dans son article Technology Affordances, nous utiliserons l'exemple de Twitch, une plateforme de streaming vidéoludique, pour illustrer mes propos. Twitch propose à l'inscription la lecture des conditions d'utilisation depuis un lien au design démarqué du reste du contenu, c'est-à-dire que c'est un lien violet assez visible contrairement au reste qui est plutôt grisé et effacé, et impose son acceptation, donc le fait d'avoir lu les conditions d'utilisation, par une case à cocher également démarquée du reste. Dans le cas où l'utilisateur viendrait à oublier ces règles ou n'aurait pas lu suffisamment sérieusement le contenu, le site affichera de manière aléatoire un petit pop-up et non une bannière fixe de rappel des règles et comportements à suivre lorsqu'il souhaitera interagir avec les autres. L'affordance du site n'est pas la seule à conseiller un comportement type à l'utilisateur, puisqu'en effet, les personnes diffusant du contenu sur la plateforme ou streamers pour les plus intimes peuvent également intervenir et modifier l'affordance de leur page personnelle. Chaque streamer possède un design de chaîne qui lui est propre et qui définit en quelque sorte sa personnalité et le contenu qu'il y propose. Cependant, certains codes ou certaines affordances peuvent permettre de cibler un public particulier et d'inciter à un comportement spécifique. Par exemple, une chaîne tournée autour de la cuisine va jouer sur l'affordance à travers l'utilisation d'ustensiles, de la nourriture et faire comprendre qu'il s'agit d'une chaîne culinaire. Ainsi, les personnes visionnant le contenu en direct parlons de cuisine et non d'autre chose. Ils adopteront un comportement grâce à l'affordance imposée par le streamer et non par le réseau socio-numérique en lui-même. De plus, certains mots peuvent être considérés comme incorrects ou en non-adéquation avec le thème de la chaîne. Ainsi, un message incorrect envoyé délibérément ou non sera directement censuré graphiquement et un message avertira l'utilisateur. Si c'est un message assez déplacé, une belle fenêtre indiquant que l'on est banni du chat sera visible à la place du chat. Cette fenêtre nous transmet et nous informe d'une information, on peut considérer ça comme une affordance perceptible. Encore une fois, Twitch impose un comportement type à respecter. L'affordance de ce message suggère un rappel à la vision pédagogique et non punitive à travers un langage informel et un design sobre. Si nous avons pu étudier quels étaient les outils mis en place par les médias sociaux numériques pour développer l'affordance de leurs objets virtuels et interactifs, il existe cependant des cas de détournement de leur usage primaire ainsi que des dérives à travers les comportements utilisateurs. Par exemple, sur un chat Twitch, il est possible d'envoyer des émotes, qui sont des petites images, qui ont pour certains un sens. Et c'est à travers ces émotes que certains utilisateurs malhonnêtes vont abuser, vont détourner la fonction première de ces affordances, de ces émotes, qui est d'exprimer un message comme GG qui signifie Good Game, ou le même Lul avec la tête de Total Biscuit, qui est une petite image représentant le streamer Total Biscuit qui rigole par exemple, en des messages inadéquats comme du spam, c'est-à-dire que l'on va abuser du principe d'afficher, de transmettre un message à travers ces émotes, en un long message non constructif et inutile. Un autre exemple serait de détournement serait l'abus de certaines affordances pour se faire de l'argent, entre guillemets. Je m'explique. Il est possible de personnaliser son profil Steam ou Discord au moyen de l'argent. C'est-à-dire que l'on va payer pour embellir les affordances sur notre profil, pour faire beau, se démarquer des autres. Je vais prendre l'exemple de Discord Nitro. En effet, Discord propose de manière payante la possibilité d'améliorer son profil, d'améliorer les affordances présentes sur notre profil au prix d'un abonnement mensuel qui est de 10 euros par mois. Évidemment, cette offre n'est clairement pas utile car elle n'ajoute pas spécialement de fonctionnalités vitales utiles à l'utilisation du logiciel, mais plus du cosmétique, un moyen d'embellir les affordances déjà présentes. Je ne vais pas m'attarder trop dans le détail puisqu'il s'agit d'un des sujets de Tom et qui vous expliquera ça dans quelques instants.
Merci Daniel, merci pour l'explication de ces cas, de ces exemples précis. Alors, juste avant de te poser une question de Léonie sur Mattermost, est-ce que tu veux bien juste me rappeler et me dire ce que c'est qu'un emote? Parce que je découvre
alors,
ce que c'est en t'écoutant.
Une emote, Ok, pardon. Une émote, c'est en quelque sorte, sur Twitch ou même en général, c'est une petite image, on pourrait simuler ça, une icône qui représente un message, à savoir une émote sourire, ça va être deux yeux avec une petite bouche, c'est quelque chose comme ça. Sur Twitch, les émotes, on peut avoir soit une petite image qui représente un message, comme j'ai pu dire, donc GG, on va avoir une image avec écrit GG. J'utilise aussi le même LUL, LOL, pour certains, avec la tête de Talbiscuit, donc ça va être une image qui va contenir sa tête, qui rigole évidemment. Donc c'est vraiment une petite émote, une petite icône qui va représenter un message précis. Donc,
Entendu, merci Danaï, merci de ton aide. Et puis Stéphane aussi, je te vois sur Mattermost, c'est un émoticône. En effet, je suis vieille a priori, je n'ai pas compris. Bref, merci Danaï. Alors Léonide se demandait, est-ce qu'il est possible de protéger par exemple par un brevet un type d'affordance caractéristique, par exemple le like sur Facebook?
C'est une très bonne question pour le coup, je ne me suis pas intéressé à ça. Est-ce que quelqu'un a une idée pour le coup? Je vais être très honnête.
Alors, à titre personnel, j'ai pas la réponse non plus, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que l'affordance, elle ne concerne pas de nouvelles fonctionnalités, mais bien la mise en page de ces fonctionnalités. Donc, je dirais que si c'est assez facile de protéger une nouvelle fonctionnalité d'une application grâce à un brevet, la manière dont elle est mise en page, ça paraît plus délicat. Je pense que l'affordance d'une application est vouée à évoluer beaucoup au fur et à mesure de la vie de l'application ou du réseau socio-numérique. Je pense qu'on ne peut pas la protéger avec des brevets spécifiques, mais ça reste à étudier et à approfondir, bien sûr.
Oui, c'est vrai. Puis après, on a toute la question après des droits sur le code, etc. Mais en France, a priori, et merci Stéphane pour le guide, en effet, pas en France, de toute façon, on ne peut a priori pas faire cela. Alors, je te pose une dernière question, Danaïl. Enfin, vous pouvez tous répondre. Pour l'exemple de Discord en particulier, donc, est-ce que embellir les affordances d'un profil permet de gagner en visibilité?
Eh bien, si je peux me permettre, non. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on aura beau personnaliser son profil comme sur Steam ou Discord, cela ne change rien, c'est juste pour faire beau, c'est vraiment purement personnel, donc non, nous ne gagnons pas en visibilité, et voilà.
Et entendu, c'était clair, merci Daniel. Ok, eh bien, c'est le moment de la dernière partie. Tom, tu vas conclure, tu es prêt?
Oui.
Allez, c'est à toi.
Merci Danaïl de nous avoir présenté et explicité certains détournements de l'affordance dans les médias sociaux numériques. On va donc désormais traiter le cas des dérives et de certaines limites de l'affordance sur ces médias. Ces mêmes dérives, dont les utilisateurs peuvent être victimes ou initiateurs, sont généralement non encadrées par l'affordance initiale de ces plateformes numériques. Mais tout d'abord, définissons ensemble l'action de dériver. Elle est caractérisée par le fait de s'écarter de l'utilisation normale d'un objet, avec une connotation négative, comme le précise le dictionnaire en ligne L'Internaute. L'affordance des médias sociaux numériques est elle-même concernée par des dérives de différents types. En effet, ces dernières peuvent prendre des formes variées et sont explicables de manière diverse. D'autre part, il existe des dérives de l'affordance qui sont engendrées par les utilisateurs et leur propre utilisation d'un média sociaux numérique. Il arrive que l'affordance d'un média se voit totalement réappropriée par ses utilisateurs. Ainsi, cette affordance initialement développée par les ingénieurs et utilisée pour justifier indirectement certains comportements. Sur Twitter, une situation similaire est observable. L'affordance de ce média, comme prévu initialement par ses développeurs, suggère aux personnes de publier régulièrement des messages. Ces messages, courts, sont rarement travaillés sur le fond car leur taille est contrainte à 280 caractères. De plus, il est impossible de modifier un message posté sur la plateforme. Aujourd'hui, après plus de 15 ans d'existence, ce média a changé. En observant les comportements actuels, on comprend que les utilisateurs ont fait évoluer par eux-mêmes la signification de l'affordance sur le réseau. Car malgré une succession de mises à jour au fil des années, aucun changement majeur lié à l'affordance n'est à relever. Ainsi, Twitter est actuellement réputé pour le comportement souvent vulgaire et agressif de ses utilisateurs, comme le prouve l'augmentation de plus de 40% des contenus à caractère haineux en 2020. comme expliqué dans l'article de France Bleu qui traite de ces propos violents sur la plateforme. En effet, l'implémentation d'une fonctionnalité de modération en 2019 prouve l'existence de ce problème de grande envergure. Cette modération automatisée a pour but de supprimer 50% des messages jugés abusifs selon Twitter. Ces comportements sont liés à l'appropriation par les utilisateurs de l'affordance initialement conçue par les développeurs. En effet, les éléments principaux de l'affordance existent encore, mais ils servent désormais à justifier la publication de messages d'insultes ou contenant une certaine animosité. De plus, il est impossible de modifier son message. Un utilisateur ne peut donc jamais revenir sur ce qu'il dit directement. Cela pousse les gens à manquer de nuances, de subtilité et même de responsabilité dans leurs propos, dérivant souvent dans une très grande vulgarité. En effet, ces messages manquant de recul sont souvent issus de réactions violentes, instantanées, comme le montre la proportion importante de fautes d'orthographe. D'après Twitter, les fautes d'orthographe règnent en maître sur le réseau social. Un article paru dans La Rédaction, un mot sur 179 contient une faute. Ainsi, les nouveaux utilisateurs sont poussés indirectement à agir de la même façon par mimétisme. Une forme de spirale négative est donc créée, comme le prouve la proportion impressionnante, 90% selon Le Figaro, de personnes qui publient un message à caractère haineux malgré la mise en garde du média. C'est pourquoi on peut affirmer que les utilisateurs se sont réappropriés l'affordance du média afin de la faire dériver, justifiant un comportement inattendu par les développeurs. Nous allons désormais procéder à l'écoute d'un court extrait audio qui présente les risques liés à une affordance mal conçue initialement. Cet extrait vous permettra de mieux assimiler ce concept de dérive d'affordance en saisissant les enjeux qui se cachent derrière.
Si ces indices sont peu nombreux ou trompeurs, vous allez également mettre votre utilisateur en situation d'échec. S'ils sont peu nombreux, votre utilisateur risque de chercher longtemps, ce sera comme un casse-tête pour lui, il risque d'être frustré ou d'abandonner. Par exemple, dans certains bâtiments, les vitres et les portes se ressemblent. Ce n'est pas rare de voir des usagers se cogner la tête en cherchant la sortie. Et c'est une chose qui pourrait être évitée facilement en indiquant avec une signalisation la sortie et la présence des fenêtres. Si vos signifiants sont trompeurs, alors dans ce cas, ils vont faire croire que l'objet fonctionne d'une certaine manière, alors que c'est faux. Votre utilisateur risque de faire des erreurs ou de se blesser. Comme dans cette vidéo humoristique japonaise où chaque fois que le personnage souhaite ouvrir la porte, elle fonctionne d'une manière différente. Dans une application, l'affordance est l'ensemble des éléments d'interface et de leur aspect graphique. Par exemple, un mot souligné fera penser à un lien, un texte dans un rectangle arrondi fera penser à un bouton. Vous avez donc tout intérêt, en phase de conception, à faire attention à l'ensemble de ces détails qui feront toute la différence entre une expérience intuitive et fluide ou une expérience laborieuse et frustrante.
Intéressant, n'est-ce pas ? Ce court extrait est tout droit issu de la vidéo YouTube « L'affordance, comment rendre une application intuitive ». Maintenant que ce concept abstrait a été longtemps discuté, permettez-moi de conclure. L'affordance est une notion complexe qui est aujourd'hui parfaitement intégrée de manière implicite et presque naturelle à la plupart des médias que nous utilisons. Afin d'assurer une certaine efficacité, ce concept repose sur différents outils, comme les interfaces graphiques, à travers les notifications et les icônes, mais aussi sur les règles de bonne conduite dans les médias sociaux. Par ailleurs, cette affordance mise en place par les développeurs peut être détournée, comme nous le montre l'exemple de Discord avec son abonnement Nitro. Enfin, elle est aussi sujette à des dérives, observables à travers la situation sur Twitter, où les personnes profitent de l'affordance prévue par les développeurs pour justifier des comportements déplacés. L'affordance joue bel et bien un rôle primordial dans notre rapport à l'utilisation des médias sociaux. Dans l'optique de les utiliser avec un œil plus averti, il semble nécessaire d'être conscient des subtilités de l'affordance afin de nous protéger d'éventuels abus. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Tom, pour cette conclusion très claire, très complète par rapport à votre présentation en entier. Merci, Tom. Alors, tu vois, tu as parlé en particulier du cas de Twitter, et Lucie se posait la question un petit peu plus tôt par rapport à l'interface donc, de Twitter et à la limite du tweet qui est à 280 caractères. Donc, Lucie se demandait si cette limite-là, du nombre de caractères, restreint la liberté d'expression d'un utilisateur. Et elle ajoute entre parenthèses, est-ce que le fonctionnement de l'application fait partie de l'affordance dans ce cas ? En général, pardon.
Je suis pas totalement sûr que la limite de nombre de caractères limite la personne dans sa liberté d'expression, car elle a toujours la possibilité de faire une suite de tweets si elle veut développer des idées. Mais il est clair que si elle veut développer de manière concise et unie ses idées, un tweet n'est pas le bon moyen de s'exprimer. Et c'est pourquoi là, on voit que l'affordance, elle n'est pas adaptée à ce genre de comportement.
D'accord, entendu. Alors, c'est vrai que tu expliquais aussi que les affordances de Twitter pouvaient provoquer un certain type de comportement, des comportements plutôt violents. Est-ce que vous auriez en tête des types d'affordances qui permettraient de provoquer des comportements plus attentifs, respectueux, polis, des choses qui iraient à l'inverse de ce qui est implémenté dans Twitter ? C'est une question un petit peu à froid comme cela. Est-ce que ça vous inspire ou pas ? Mais si ça vous inspire, je t'en prie, Léo.
Alors, je pense qu'une affordance qui pourrait être facilement repérable, ce serait les zones de texte, notamment pour envoyer un message, qui deviennent vertes ou rouges en fonction de la qualité du texte qui est écrit au niveau de l'orthographe. Alors, ça veut pas dire forcément une meilleure qualité au niveau du respect des autres utilisateurs, mais au moins de la qualité générale du contenu qui y est posté. En effet, je pense que ça peut influencer les actions et les contenus partagés par les utilisateurs sur les médias sociaux numériques.
Merci Léo pour ta contribution, pour cette réponse. Merci. Merci à toi. Et puis c'est vrai, on pourrait imaginer beaucoup de choses. Stéphane suggère des listes d'émoticônes sympas, faciles à utiliser. Pourquoi pas, mais oui. On se dit oui. Alors Léonie, tu te demandais aussi si certains sites jouent avec cela, donc j'imagine avec les affordances que l'on a présentées un petit peu avant, jouent avec cela en cachant certaines fonctionnalités.
Il y a un exemple qui peut être assez simple à étudier, c'est simplement de compter le nombre d'actions qui sont nécessaires pour partager un post sur Facebook et de compter le nombre de manipulations nécessaires pour supprimer son compte de Facebook. Et vous allez voir qu'il y a une énorme différence entre ces deux manipulations, tout simplement parce que Facebook ne souhaite pas que l'utilisateur se désinscrive et supprime définitivement son compte, alors qu'au contraire, il apprécierait avoir votre contribution et pouvoir récupérer votre post. Donc je pense qu'un simple test, c'est de comparer le nombre d'actions pour accéder à ces deux fonctionnalités et de voir qu'en effet, on peut cacher certains boutons, certaines fonctionnalités sur un média social numérique.
Ouais, c'est un bon critère, ça. C'est... Ok, merci Léo. Tom, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ?
Il existe d'autres exemples où là, c'est pas trop le concept de cacher, mais plus le concept d'abuser des utilisateurs. Par exemple, Instagram a modifié il y a quelques années l'emplacement du bouton notification. Et à la place de ce bouton, l'application a ajouté un nouvel onglet qui est l'onglet shopping. Donc là où les utilisateurs ont été habitués pendant plusieurs années à utiliser l'application d'une certaine façon, le lendemain de la mise à jour, ils étaient beaucoup plus enclins à cliquer sur l'onglet shopping et à potentiellement passer à l'achat. Donc on peut voir la certaine forme d'abus. On cherche à abuser de l'utilisateur, là, par exemple.
Oui, tu as raison, c'est vrai, hein, ça a été noté. Et puis, ce que tu expliques, là, me fait penser aussi à l'exemple des fenêtres, vous savez, pour choisir si l'on accepte ou si l'on refuse les cookies. Et puis, récemment, on a pu se rendre compte que le continuer sans accepter a changé de place pour induire exactement ce genre de comportement aussi. Bien, mais écoutez, je crois qu'on en a terminé. Bravo à tous les quatre. Merci pour votre travail, pour votre présentation. Alors, vous venez d'écouter la dernière présentation des étudiants de WE1 pour ce semestre. Bien, j'espère que ce format vous aura plu puis que vous avez apprécié de réfléchir avec nous sur les médias sociaux, sur la low technicisation du web, sur les smart cities, sur les coûts du numérique, les données personnelles et puis les affordances. Et donc je tiens à féliciter et puis à remercier tous les étudiants de WE1 pour votre implication, pour le cœur mis à l'ouvrage. Et puis merci à Léo et Brian de nous avoir si gentiment accueillis chez Graphite à Graphite. Merci Stéphane parce que ces émissions sont une idée à toi et donc c'était encore une fois un bonheur de mettre en application c'est une de ces idées et puis d'essayer quelque chose de nouveau et d'enrichissant. Voilà, alors si vous souhaitez réécouter les interventions des étudiants de WE1, vous pouvez les retrouver en podcast sur graphite.net et puis ensuite sur l'instance Peertube à peri.tube, chaîne WE1. Si vous êtes curieux et curieuse toujours de ce que l'on apprend en WE1, venez faire un tour sur librecours.net. Et merci pour votre écoute. Merci encore une fois à tous les quatre pour votre travail. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes et prenez soin de vous.